Septembre 2020, peut-on rentrer rassuré et les enfants sont-ils prêts à revenir en classe ?
France Culture, Être et Savoir, Louise Touret.
C'est la rentrée sur France Culture et Être et Savoir fait désormais partie d'une nouvelle tranche de magazine de société tous les soirs de 21 à 22h. Vous entendrez parler d'environnement avec Aurélie Luneau le mardi, de géographie sociale avec Dominique Rousset le mercredi, des questions de justice avec Antoine Garapon le jeudi et d'éthique avec Frédéric Worms le vendredi et donc d'éducation tous les lundis soirs ou en podcast, évidemment. Pour commencer, nous consacrerons 3 émissions à cette rentrée scolaire assez extraordinaire au sens propre, en poursuivant un double objectif, éclairer l'actualité de l'éducation et donner matière à penser ce moment. La rentrée scolaire approche dans 8 jours, 12 millions d'élèves et même un peu plus, et 1 million de professionnels de l'éducation regagneront les établissements et les classes. Un retour qui s'organise avec beaucoup d'interrogations, elles sont déjà très présentes, alors que le coronavirus circule davantage qu'au mois de juin, on peut dire que l'épidémie repart. Et la principale question, c'est peut-on rentrer rassuré ? Comment rentrer rassuré ? Dans un instant, dans la première partie de l'émission, nous parlerons des risques sanitaires et de l'organisation dans les écoles avec une directrice et enseignante, Catherine Da Silva. Bonjour.
Bonjour.
Et Robert Cohen, qui est pédiatre. Bonsoir.
Bonsoir.
En deuxième partie, nous élargirons le débat en abordant le besoin des enfants de ne pas trop rester entre quatre murs. Besoin physique et moral d'être dehors, dans la nature ou en ville. Une question qui a occupé les esprits pendant le confinement et d'une autre manière, peut-être pendant les vacances où nous étions plus libres, enfants et parents. Une question à laquelle mes invités ont consacré plusieurs textes. Il faut dire que ce sujet fait beaucoup écrire en ce moment. Thierry Pacot est philosophe de l'urbain. Christelle Ferjou, professeure des écoles et conseillère pédagogique. Son livre s'appelle « Emmener les enfants dehors ». Il paraît chez Robert Laffont le 27 août. Ils ont tous les deux répondu à mes questions cet après-midi. Et on commence avec cette rentrée qui fait déjà tant parler. Peut-on rentrer rassuré ? Du côté des enseignants, rien n'est moins sûr. Catherine Da Silva, vous êtes directrice d'une école primaire en Seine-Saint-Denis, représentante du SNUIPP-FSU du 93. C'est le principal syndicat d'enseignants du premier degré en France.
Oui, alors nous, oui, je vous dirais qu'on n'est pas très rassurés. Parce que l'épidémie repart et que le protocole que nous avons date de la mi-juillet, quand l'épidémie avait donné l'impression d'être un peu s'estompée ou de se calmer. Et là, quand on voit que sur Paris, par exemple, il est nécessaire maintenant de porter des masques à l'extérieur, on se demande pourquoi, par exemple, en maternelle, il n'est plus conseillé aux enseignants, il n'est plus de porter le masque. Et donc là, on se pose vraiment beaucoup de questions sur cette rentrée, en se demandant si on n'est pas, on va pas refermer d'ici 15 jours ou 3 semaines. Et peut-être que le protocole que nous avons est un peu léger et qu'il aurait fallu prendre un peu de temps pour le revoir et mettre un protocole en place qui permette un meilleur accueil des enfants sur un plan sanitaire.
Vous avez fait peur aux parents en parlant du côté des syndicats d'un report éventuel de la rentrée. Avez-vous conscience des difficultés pour les parents à envisager une rentrée bousculée, eux qui reprennent le travail dans des entreprises où le masque sera lui obligatoire à partir du 1er septembre?
Voilà, justement, le masque va être obligatoire en entreprise et pas à l'école pour certains collègues et pas pour les enfants, ce qu'on peut entendre, bien sûr. Pourquoi nous l'avons demandé ce report? C'est parce qu'on l'avait, depuis qu'on a repris et même avant, on avait demandé à Monsieur Blanquer de bien réfléchir à cette rentrée qui, effectivement, comme vous l'avez dit, est hors norme. D'abord sur un plan sanitaire, parce qu'on ne savait pas trop où on allait. Et effectivement, là, on est en train de voir que le virus repart. Donc peut-être qu'effectivement, il y a des choses à mettre en place par rapport au protocole qui, je trouve, est très léger pour cette rentrée. Moi, je ne saurais pas rassurer des parents qui viendraient me voir en me disant « Est-ce que vous êtes certaine que tout est bien mis en place ?» En fait, il n'y a pas grand-chose à mettre en place. Et puis, sur un plan pédagogique, le fait qu'effectivement, les enfants, pour certains, n'ont pas revu l'école depuis le 16 mars, il fallait des moyens, il fallait nous laisser du temps pour réfléchir là-dessus. Et on n'en a eu aucun et on n'a pas eu de moyens supplémentaires, en tout cas dans le 93, alloués pour ça. Et donc effectivement, c'est aussi pour ça qu'on demandait plus de temps. C'était réfléchir ensemble, pouvoir avoir le temps de, bah voilà, en fonction de là où en était l'épidémie, est-ce qu'on peut faire des groupes de besoins, est-ce qu'on peut mélanger les élèves de plusieurs classes, est-ce qu'il faut rester sur ce qu'on avait avant de partir, ne plus brasser les élèves. Enfin, voilà, on est sur beaucoup de questions et peu de réponses.
Robert Cohen, vice-président de la Société française de pédiatrie et pédiatre à l'hôpital intercommunal de Créteil, peut peut-être répondre à certaines de ces questions. Déjà, les pédiatres sont assez rassurants. Tous les communiqués des sociétés de pédiatrie, de certains pédiatres, sont plutôt dans une note qui insisterait sur le nécessaire retour à l'école.
Alors, je suis pédiatre infectiologue, hein, c'est-à-dire que je m'occupe que de maladies infectieuses, y compris de celles-là. Alors, je comprends ce que vous dites, et la réponse sanitaire doit être adaptée à la circulation du virus. Mais on n'a pas beaucoup de temps pour adapter cette mesure, et puis la situation changera peut-être dans 15 jours, elle changera peut-être dans 3 semaines, dans un mois, donc il va falloir adapter très vite sans, pour nous, avoir besoin de reporter. Je suis d'accord sur l'idée qu'on a l'impression qu'entre le mois de juin et maintenant, il n'y a pas eu de grand-chose qui soit sorti. Je vous partage, mais je partage...
Du côté de l'éducation nationale.
Du côté de l'éducation nationale.
On n'a pas pu avoir de représentants de l'éducation nationale ce soir.
Je ne sais pas quelle était la position de votre syndicat pour la reprise de l'école en mai, mais nous étions très partisans. On était très partisans de cette reprise en mai avec des protocoles beaucoup moins durs que ce qui était proposé à l'époque, mais qui n'était pas applicable à l'école, et parce que on savait bien qu'il fallait qu'on se rende compte que comment ça va marcher. Et je ne sais pas quelle était la position de votre syndicat à l'époque, mais enfin, ce que j'ai vu, c'est que beaucoup de syndicats étaient pas pour la reprise de l'école en juin. Alors qu'elle était en mai ou en juin, alors qu'elle est probablement, je vous l'accorde, plus facile que maintenant.
Alors, Silva,
c'est vrai qu'on était très, enfin, on ne connaissait pas grand-chose de ce virus. Effectivement, on était très, enfin, on demandait d'avoir des garanties, garanties qu'on n'a jamais eues vraiment. Et c'est vrai que, en tant que, enfin, sur le besoin des enfants d'être à l'école. Moi, je veux pouvoir ouvrir mon école le 1er septembre à tous mes élèves. Je peux pouvoir faire cours et j'aimerais que ce virus disparaisse du jour au lendemain comme il est venu et qu'on n'en parle plus. Ce n'est pas le cas. Et à un moment donné, moi, je dois pouvoir être en capacité de rassurer des mamans qui viennent me voir avec des enfants, par exemple, qui sont en rémission de cancer et qui me disent « Est-ce que vous êtes sûr qu'il n'y a pas de risque ?» Je suis incapable de leur répondre. Qu'est-ce qu'on répond aussi aux collègues enseignants, par exemple, en maternelle, à qui, pour l'instant, hein, dans le protocole, il n'est pas indiqué d'avoir le masque pendant les cours et qui sont ce qu'on appelle des personnes vulnérables, dites à risque. Est-ce qu'en juin, elles étaient à risque? En septembre, ne le sont-elles plus? Et ce sont des questions auxquelles on n'a pour l'instant aucune réponse.
Robert Cohen, pédiatre infectiologue, si on a un enfant qui a une autre pathologie, est-ce qu'il faut le garder à la maison?
Ah non, pas du tout. Les exceptions à l'école sont vraiment d'une rareté absolument exceptionnelle. Tous les enfants doivent revenir à l'école et les quelques contre-indications d'école, ça va être des pédiatres hospitaliers qui vont les déclarer parce que c'est tellement rare pour nous. Alors, je voudrais venir sur un point que nous, on ne pourra jamais répondre. C'est, est-ce que vous êtes sûr? Si on était sûr de quelque chose de ce virus, eh ben, ce serait pas un nouveau virus. Donc, on n'est pas sûr. Mais simplement, on sait que le risque est tellement faible pour les enfants qu'on peut être très rassurant. Et que ce risque très faible pour les enfants n'a pas de commune mesure avec le risque qu'on a de ne pas aller à l'école. D'accord. Et nous, en médecine, on travaille toujours sur le balance bénéfice-risque. Quel est aujourd'hui le risque du Covid chez l'enfant? Il est extrêmement faible. On peut donner des chiffres, mais mais c'est 100 fois, 1000 fois moins que l'adulte.
Et l'école, c'est jusque à 16 ans ou à 18 ans parfois, donc au lycée.
Alors,
donc
vous,
qu'est-ce qui se passe
vous avez raison.
Les lycéens.
Il faut bien distinguer les collégiens et les lycéens des enfants plus jeunes. Les collégiens et les lycéens, les mesures d'hygiène à proposer, ce sont ceux de la société en général. Si on dit qu'il faut porter des masques en entreprise, eh bien, il faut porter des masques. C'est d'ailleurs ce qui est proposé, hein, dans mon souvenir. Leur dire de se laver les mains et d'avoir des solutés hydroalcooliques, c'est très faisable aussi. Donc, les collégiens et les lycéens, ça se rapproche beaucoup des adultes en termes de fréquence qu'ils ont apporté ce virus-là. Les jeunes enfants, ils sont beaucoup moins porteurs du virus, ils tombent beaucoup moins malades que les adultes, moins que les adultes jeunes, et ils sont moins contaminants. Je dis souvent, je prends cette métaphore de dire un enfant sans masque, c'est un adulte avec masque. Pourtant, c'est-à-dire le risque qu'il vous transmette ou qu'il attrape, c'est exactement comme un adulte avec masque. Voilà.
À propos de masque, j'ai lu que l'OMS, vous me le confirmez, si vous voulez, Robert Cohen, que l'OMS recommande le port du masque à partir de 6 ans.
Alors, ça, l'OMS prend toujours des positions intermédiaires, hein, prenant celle en particulier de l'Asie, où ils ont la culture du masque.
Où on peut le porter à partir de 2 ans.
Voilà, mais on sait très bien qu'avant 6 ans, c'est une illusion. Donc, vous savez, c'est comme l'histoire de la Chine, les contrôles de l'OMS, etc. Vous avez vu ce que c'est. Mais pour les pays européens en général, les Américains sont une position intermédiaire. Pour nous, il n'y a aucun intérêt du masque avant 11 ans. C'est pas, je voudrais pas arriver que pense l'OMS ou pas. Nous, on a des chiffres, on a des études. Et je peux vous dire que quand on fait des prélèvements aux enfants, ils sont 4 à 6 fois moins positifs que des adultes. Et ils sont 4 à 6 fois moins contagieux que des adultes. C'est des data. Moi, ce qu'arrive à dire l'OMS, ce qu'elle n'arrive pas à dire, ça n'a pas grande importance.
Les études, c'est celles de l'Institut Pasteur, par exemple?
Pas du tout. Non.
Les
études de l'Institut Pasteur le confirment.
Parce que ce sont des études menées en milieu scolaire.
Bien sûr. En milieu scolaire, en France et à l'extérieur de France. Aujourd'hui, le nombre d'études qui a été publié sur ça est considérable. Il y en a en Irlande, il y en a aux États-Unis, il y en a en Australie, il y en a en Hollande, il y en a en Angleterre, tout va dans le même sens. Il y a très 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 peu de contamination à l'école entre enfants et adultes. Par contre, la transmission adulte-enfant est possible. La transmission adulte-adulte à l'école, qui est le problème essentiel?
Bon. J'allais y venir. Et qu'est-ce qu'elle faire jouer?
Voilà, parce que la question, c'est vraiment ça. C'est sur cette histoire de, par exemple, des collègues de maternelle qui ne portent plus le masque. Alors, je comprends, parce qu'on nous dit, les enfants ne vont pas leur transmettre le virus. Mais elles peuvent le transmettre. Et dans une classe de maternelle, vous avez la maîtresse, mais vous avez aussi l'ADSEM. Vous avez d'autres adultes. Là, par exemple, à la rentrée, enfin, le premier jour, les enfants de petite section, donc, 2 ans et demi, 3 ans, ils arrivent avec leurs parents. Et rien n'est prévu dans le protocole sur cette question-là, parce que tous les parents vont entrer dans l'école avec leurs petits, ce qui est normal, qui va se mettre à pleurer, ils vont suinter de partout. Et on va avoir comme ça une vingtaine d'enfants.
On n'espère pas tous,
mais
tout de même.
Je vous assure que c'est pas si... Pendant une bonne semaine, c'est assez atroce. Moi, j'évite la maternelle, je passe loin. Mais voilà, donc qu'est-ce qu'on fait de ces collègues-là? Et moi, je reste perplexe.
Il y a deux situations différentes. Mmh. Il y a l'enseignant qui fait un cours. Faire un cours devant 30 élèves, 40 élèves avec un masque, dont certains, vous le savez, ont des difficultés d'audition parce qu'ils ont des otites séreuses. Si vous leur cachez le visage et si vous parlez, ils n'entendront rien, donc ce n'est pas le problème. Donc là, pendant qu'on parle en cours, les enseignants ne doivent pas porter de masque, comme ici dans ce plateau.
C'est un grand studio, nous sommes à moins de 2 mètres les uns des autres, mais la question du masque en studio se pose, effectivement.
Voilà, la question du masque. Bon, parce qu'à un moment, la communication va être difficile. Et puis, il y a tous les autres moments. En particulier réunion salle de classe, discussion entre profs, etc. Pour nous, c'est une évidence que nous sommes dans un lieu public, clos, et que les gens doivent porter le masque indiscutablement.
Mais donc,
France Culture, être et savoir, Louise Touret.
Alors, il n'y a pas que le masque pour se protéger ou prévenir la diffusion du virus dans un espace clos. Il y a pouvoir ouvrir les fenêtres, ça touche la question des bâtiments scolaires, c'est fondamental. Et puis, il y a cette aération, fait de filtrer l'air, ça nécessite des installations. Alors d'abord, l'avis du médecin, Robert Cohen.
L'aération est fondamentale. Depuis qu'on sait qu'il y a une transmission air possible, c'est-à-dire par les petites particules qui peuvent rester en suspension dans l'air, on sait que l'aération des pièces, l'ouverture des fenêtres, tout simplement, hein, quand on peut le faire, pas en permanence, mais régulièrement, peut aider. J'allais dire, la mesure la plus importante, c'est aussi le non-brassage des classes. Ça, il faut arriver à ce que, au maximum, une classe, deux classes, trois classes puissent se rencontrer à la cantine ou dans la salle de récréation, parce qu'après, on ne saura pas quoi faire. Donc, C'est
possible, nom... ça, tout simplement, dans les locaux scolaires que vous connaissez, de ne pas brasser les classes, Catherine Da Silva?
Ça a été très difficile. C'est ce qu'on a fait jusqu'au 22 juin. Et dans le protocole qui est prévu pour la rentrée, ce n'est plus prévu, le nombre brassage. Et c'est un problème, parce qu'on voit très bien qu'effectivement, dans la circulation du virus aujourd'hui, effectivement, comme vous le dites, nous adultes, on peut éventuellement le transmettre aux élèves, on peut se le transmettre entre nous. Il serait donc important qu'on puisse ne plus brasser les élèves. Et rien n'est prévu de tel dans le protocole.
Et aérer les locaux, les aérer, classes suffisamment.
Ça va dépendre complètement des locaux.
Enfin, comme on sait qu'il y a des problèmes de chauffage parfois.
Il y a des problèmes de chauffage, il y a des problèmes d'ouverture de fenêtres tout court. Parfois, dans certaines écoles, c'est scellé parce que ce sont de très vieilles fenêtres qui tiennent à peine. Donc, elles sont scellées. Moi, j'ai la chance d'être dans une école neuve, mais elle s'ouvre de 5 cm. Donc, l'aération est modérée parce qu'on est en hauteur et qu'effectivement, il y a le problème des chutes des enfants. Donc, tout ça est très complexe et il faut y réfléchir. On n'a pas eu ce temps. On n'a pas eu ce temps de coordination avec les municipalités. C'est les municipalités c'est elles qui nettoient les locaux, c'est elles qui font le bâti, c'est elles qui vont mettre le savon à disposition, puisqu'il faut aussi se laver les mains de façon régulière. Toutes ces choses-là, on n'a pas eu vraiment de temps et on sait qu'on les a fait en catastrophe du mois de mars au mois de juin. On a tout fait en catastrophe. On aurait aimé avoir un peu plus de temps, d'être un peu plus serein que ce qu'on a été sur la fin de l'année pour préparer tout ça.
Alors, faut-il blâmer le ministère de l'Éducation nationale et son ministre, ce que les syndicats n'hésitent pas à faire, ou des municipalités imprévoyantes?
Alors moi, je vous dirais qu'il y a des municipalités qui ont fait le travail d'essayer d'équiper tout au long du mois de mai et du mois de juin leurs écoles. Je pense que quand même, si on avait eu un protocole un peu plus clair, qui soit vraiment clair sur les dispositifs à mettre en place, même si c'est le principe de précaution, même si effectivement ça coûte des sous, j'ai envie de vous dire que pour les prochaines années, pour les gastro et les grippes, ça n'aurait pas fait de mal d'avoir du savon en nombre et des lavements dans toutes les écoles et dans les collèges et les lycées en nombre. Parce que dans les lycées et les collèges, c'est encore pire que dans les écoles. Et comme vous l'avez dit, ils sont peut-être ceux qui font passer le plus de virus. Il y a tous ces temps, comme vous l'avez dit, de la cantine, du centre de loisirs, où rien n'est encadré. Si jamais des enfants développaient le virus, si des adultes développaient le virus, on n'a aucun protocole, on ne sait pas quoi faire. Est-ce qu'on va tester? Est-ce qu'on va fermer? Est-ce qu'on va mettre en quinzaine? On n'a aucune idée de ce qui va se passer. On a moins d'une semaine. Voilà pourquoi on est un petit peu sur la réserve et qu'effectivement on blâme Monsieur Blanquer qui ne nous a pas écoutés parce que ça fait un moment qu'on lui parle et qu'on lui dit attention tout de même, ce serait bien de prévoir un tout petit peu. En tant que directrice, il y a eu un sondage qui a été fait par le ministère. On est 83% des directeurs et des directrices à avoir été extrêmement stressés par cette période. J'étais au-delà du stress. Vraiment, heureusement que j'ai eu les vacances. Je n'ai pas envie de revivre ça. J'ai envie, comme vous le dites, d'accueillir mes élèves parce qu'ils en ont besoin, de façon sereine, en sachant ce que je fais, en essayant quand même de rassurer les parents, même si je ne peux pas leur garantir le risque zéro, leur dire que ce que j'ai mis en place dans l'école, ce qu'on m'a demandé de mettre en place, en tout cas, peut protéger leurs enfants au mieux qu'on peut. Là, en l'occurrence, à part porter un masque, je ne vais rien faire d'autre. On me demande qu'est-ce que vous avez préparé pour la rentrée, mais rien. Sur le plan sanitaire, rien. On met un masque, c'est tout. En élémentaire, même pas en maternelle.
Alors, question de vaccination. Vous avez parlé des gastro et des grippes, des maladies familières des enfants et des parents des enseignants qui fréquentent ces mêmes enfants en hiver. La société des pédiatriques françaises s'est exprimée pour une campagne de vaccination contre à la fois la grippe, pour la grippe et pour les maladies telles que la gastro qui sévissent. Donc, est-ce que ça pourrait être mis en place là maintenant, sachant que le vaccin contre la gastro, par exemple, n'est pas remboursé par la sécurité sociale?
Alors, le vaccin de la gastro, c'est les tout petits nourrissons. C'est pas pour l'école, c'est pour les crèches et c'est avant l'entrée à l'école.
Mais dans ce cas-là, est-ce que
rien changé pour les rentrées scolaires?
Est-ce qu'on peut vacciner davantage?
Ah, c'est clairement, on peut vacciner davantage. Le problème, c'est que, comme vous l'avez bien compris, ce vaccin n'est pas remboursé. Il n'est pas remboursé parce qu'il n'est pas recommandé. Il avait été recommandé par l'ancien comité technique des vaccinations, puis suspendu pour une raison des faits indésirables qui se sont avérés largement surestimés. Donc, il faudrait effectivement réactiver ça. Mais ce que j'entends, ça rejoint le problème que vous citez. Moi, quelqu'un d'extérieur à l'éducation nationale, on se dit, voilà, on a eu une grosse pandémie, beaucoup de morts, on a été confinés, on a rouvert, et entre le moment où on a rouvert et maintenant, rien n'a bougé. Mais c'est comme ça. L'administration, de temps en temps, réagit comme ça, et c'est un de nos problèmes majeurs. C'est que, par exemple, il faudrait décider la vaccination grippe, c'est pas simple, parce que on ne peut pas disposer d'autant de vaccins grippe que on voudrait du jour au lendemain, parce que c'est prévu à l'avance, etc. Bon, le ministre a annoncé qu'il avait augmenté les quantités, mais pas de quoi vacciner tout le temps. Mais l'autre, on pouvait le faire. Et là, on se trouve devant les lenteurs administratives qui ne correspondent pas à la vérité, aux vrais besoins. On voit bien que de temps en temps, on décide sur quelques jours de mettre les masques dans les lieux clos, puis en extérieur. Ça, on le décide vite. Mais des mesures de fond comme ça qui justifieraient vraiment... moi, honnêtement, je tombe de l'armoire quand j'entends que rien n'a été fait entre le mois de mai où l'école, la reprise de l'école était décidée et maintenant. Je veux dire, je conçois que les protocoles puissent changer. Ils vont changer tout le temps.
Alors, on aura des annonces mercredi. Ouais, c'est la conférence de presse de rentrée. Vous trouvez ça un peu juste ?
C'est un peu juste. Mais sur, par exemple, la question du lavage de mains, que ce soit dans les collèges, les lycées ou les écoles, là où il n'y avait pas, il aurait fallu insister auprès des municipalités pour obtenir d'elles qu'elles le fassent, etc. Et donc ça, c'est pas que l'administration. L'administration ne réagit que si le politique lui dit de faire. Or, en l'occurrence, là, le politique a dit, et c'est M. Blanquer, qu'on avait le protocole le plus exigeant de France. Vous dites vous-même qu'il faudrait ne pas brasser de trop grands groupes, ne pas brasser trop les élèves. Dans le protocole, ce n'est pas écrit noir sur blanc tel que. C'est si on ne peut pas accueillir tous les élèves, alors tant pis, on verra bien.
Mais à partir du moment où les parcs, par exemple, sont ouverts, les enfants, qui ne sont plus des élèves à ce moment-là, se brassent ?
Oui, mais les parcs, c'est en extérieur. Et en extérieur et intérieur, c'est très différent. On peut se permettre un peu plus de choses en extérieur qu'en intérieur. La cour de récréation est un lieu qui va être plus difficile pour contracter le virus que les salles. Donc, mais néanmoins, moi, je trouve que cette lenteur-là, alors qu'on savait que le problème existerait, hein, je veux dire, et moi, depuis le départ, on s'est vraiment battu pour leur ouverture. On n'a pas été suivi par grand monde jusqu'à mi-juin, hein, et avec des freinages. Et on savait que c'était pas possible que ça soit mieux en septembre. Parce que ce type de virus, il va reprendre, s'il ne reprend pas en septembre, il reprendra en octobre, il reprendra en novembre, jusqu'à la fin. Donc, effectivement, je pense que des annonces seront faites dans le sens où vous le dites, avec un respect, une réduction du mixage, le port du masque le plus longtemps possible en dehors du moment des cours, l'aération des pièces, le lavage des mains, tout ça est absolument nécessaire, et le distancement, tant qu'on peut.
On n'est pas complètement rassuré. Peut-être les enseignants ne le sont-ils toujours pas. En tout cas, ceux qui nous écoutent à vous entendre, Robert Cohen, dites-nous si, selon vous, si il y avait une grande reprise de l'épidémie, ce qu'évidemment on ne souhaite pas, est-ce que la Société française de pédiatrie prônerait la fermeture des écoles, ou au moins dans le second degré, par exemple.
La fermeture des écoles, on a montré que ça servait à rien si les restaurants ne fermaient pas en même temps, si le transport en commun ne fermait pas.
Disons avec le reste.
Voilà, c'est-à-dire que ça pourrait rentrer dans le cadre d'un confinement, non pas généralisé, ce qu'on n'espère pas, mais localisé. Mais fermer les écoles toutes seules, ça n'a aucun intérêt. Pourquoi on est très rassuré pour les parents, il faut insister, c'est que les enfants ne tombent beaucoup moins malades. Quand ils sont malades, ils sont beaucoup moins malades que les adultes. Ils sont beaucoup plus rarement hospitalisés. Ils passent beaucoup moins en réa. Et quant au décès, ils se comptent sur une main, sur la première série. Je vous signale qu'en France, il y a une trentaine d'enfants qui meurent de méningite tous les ans. Il y en a une vingtaine qui meurent de gastro-entérite. Il y en a qui meurent de coqueluche. Bien plus que ne le fait le coronavirus. Donc, si on est inquiet pour la santé de ses enfants, pour le coronavirus, c'est dans ce sens-là que je dis qu'il faut être rassurant. Le problème, c'est les conséquences du fonctionnement de l'école et pas le risque réel pour les enfants, qui est bien moins important que les accidents domestiques, bien moins important que les piscines, bien moins important que beaucoup de maladies infectieuses, dont certaines pourraient être prévenues par les vaccins.
Des vaccins qui aussi font débat en France, mais c'est pas le sujet de l'émission. On va revenir sur les élèves un peu plus grands et cette question du brassage. Parce que si on doit porter un masque à partir de 11 ans, il y a un endroit de l'école dans lequel on ne peut pas mettre de masque, c'est la cantine. La cantine où on peut être assez proche les uns des autres, pour la bonne raison que beaucoup de cantines sont surchargées. Aujourd'hui, une grande majorité des enfants y déjeunent. Peut-on imaginer conseiller aux familles de moins faire manger leurs enfants à la cantine? Là, est-ce qu'il y a un bénéfice éducatif à manger à la cantine? Peut-être. Enfin, Robert Cohen, dites-nous ce que vous en pensez.
Je pense que ce qui doit se passer dans les cantines doit se rapprocher de ce qui se passe aujourd'hui dans les restaurants. C'est-à-dire que les classes qui vont manger ensemble, puisqu'elles sont toute la journée ensemble, vont pouvoir manger, mais on ne va pas pouvoir en même temps brasser toutes les classes tout en même temps. Cette non-notion de mixage, il faut décaler dans le temps.
Mais on ne peut pas pousser les murs, on parlait de quatre murs. Mais
les murs, non, mais le temps, oui.
C'est-à-dire que donc repenser les emplois du temps, par exemple.
Bien sûr. Par exemple, je ne sais plus. Je
On parle du collège et du lycée.
Voilà. Hein. Je ne sais plus si le service était de midi jusqu'à 1h30.
Ça dépend.
Il faut qu'il s'élargisse de 11h30 jusqu'à 2h30 pour pouvoir justement avoir moins d'enfants en même temps et moins d'enfants d'horizons différents. Parce que on revient au mixage.
Alors, ce qui pourrait être faisable dans les écoles, et encore ça dépend de la taille de l'école, hein, parce qu'on a des écoles par exemple en Seine-Saint-Denis qui vont jusqu'à 500 élèves si on compte les élémentaires et les maternelles, donc vous imaginez le nombre d'enfants qui mangent. Mais par exemple, je pensais tout simplement au lycée de ma fille, pour ce qui me concerne, c'est 1200 élèves. 80% des enfants mangent à la cantine, et la plupart du temps ils n'ont qu'une heure. Parce que comme vous le dites, l'emploi du temps au lycée, avec la réforme du lycée Blanquer, hein, pardon de le citer encore une fois, mais c'est encore lui.
Même avant et même au collège,
même
c'était
encore
assez
avant,
serré.
C'était très serré. Et là, en plus, ils ne sont même plus en situation de classe. Toutes les deux heures, finalement, dans les lycées, c'est aussi le cas parfois dans les collèges, ils changent tout le temps. Ils n'ont jamais, en fait, leur classe en tant que telle. Donc, moi, qui suis enseignante en élémentaire, j'ai un peu de... Voilà, je me pose des questions sur la gestion par rapport au brassage des enfants. Qu'est-ce qu'il va en être à la cantine? Parce qu'on a vu au mois de juin, quand l'arrivée massive des enfants... que finalement mes collègues animateurs n'ont pas pu gérer ça. À un moment donné, il y a eu brassage. Alors que nous, on nous disait ne pas faire brassage. La même chose le soir au centre de loisirs et le mercredi, on n'a pas pu éviter le brassage des élèves parce que les normes sont, voilà, c'est pas les mêmes, c'est pas la même façon de travailler, donc ils n'ont pas pu éviter le brassage. Alors j'imagine au collège ou au lycée, et moi je me dis à quoi bon obliger les enfants de collège et lycée à avoir le masque toute la journée, si c'est que pour que le temps du midi où ils vont être rassemblés à 800 mélangés, ça reste quelque chose qui me, moi, alors là c'est vraiment la maman qui parle. Je me pose la question de l'intérêt.
D'abord, il faut bien se rendre compte que cette crise, elle va durer au moins quelques mois, pour ne pas dire plusieurs années. Si ce n'est pas plusieurs années, c'est parce qu'on va trouver des vaccins efficaces et bien tolérés, ce qui n'est pas encore fait. Bon. Donc, il va falloir bien s'organiser, bien réfléchir différemment. Je vous assure, nous, dans les hôpitaux, quand c'est arrivé, on a fermé des activités. On en a rouvert d'autres. Des gens qui faisaient plus de réanimation ont été obligés de faire de la réanimation. On s'est organisé différemment. Si, avec ce virus, on reste avec les vieux réflexes et avec les anciens horaires et avec le système, on peut fermer les écoles pour plusieurs années. Comme ça, on ne fera qu'ajouter à la longue liste des chômeurs les enseignants. Non, je crois qu'il faut pas, ça. Je crois qu'il faut, c'est vrai que ça ne va pas être simple et je ne pense pas que ce soit quelques jours de plus d'école qui vont changer. Il va falloir que dans chaque endroit, on s'organise en prenant bien ces règles. Qu'est-ce que je veux? Est-ce que je peux maintenir les distancements? Qu'est-ce que je peux respecter comme règles? En sachant que tout ne sont pas respectables partout. Et en matière d'hygiène, c'est pas blanc-noir. Je voudrais insister sur une étude qui vient de sortir qui ne concerne pas les enfants. Parce que trop souvent, on dit, on va pas attraper le risque zéro. Le risque zéro, il n'existe pas. Il n'a jamais existé en maladie infectieuse. D'accord? Une étude suisse a montré que quand on prenait les bonnes mesures, on réduisait le risque d'attraper ça, ce qui était attendu, mais même quand on l'attrapait, parce qu'on peut pas exclure que parmi les mesures, on puisse quand même attraper. Le risque de maladie grave était diminué et le risque de maladie tout court était diminué. Donc, toutes les mesures...
Avec le Covid. C'est un peu plus d'optimisme après cette annonce de mois, voire d'années, avec
cette maladie. Il faudrait un protocole plus sérieux. que celui qui a été écrit en juillet, avec les préconisations du docteur Cohen en plus, comme il vient de dire, et que peut-être
s'ils avaient été sortis... Je peux dire plus adapté aux situations.
D'accord, ça c'est mon propos, sérieux.
Où les gens puissent voir, le virus ne circule pas, parce qu'il y aura des périodes où j'espère qu'il circulera le moins, d'accord ? Et on va pouvoir alléger un peu, revenir, et puis il y a des moments où il faut monter, jusqu'au moment où il faut aller plus loin.
Voilà. Catherine Da Silva, on sait que les directeurs et directrices d'école ont énormément de travail. Est-ce qu'ils ont une certaine latitude pour justement renforcer les protocoles ? Est-ce que vous pouvez faire plus en fonction de ce que vous sentez de dangerosité, en fonction de ce que peuvent aussi exiger les parents ?
Un directeur d'école n'a aucun pouvoir. Moi, je ne suis pas chef d'établissement, et même les chefs d'établissement, de toute façon, dépendent de la hiérarchie du ministère. Donc, de toute façon, on ne peut rien faire sans le protocole. Donc, moi, quand on me demande « qu'avez-vous préparé ?», je n'ai rien préparé. Dans le protocole, il n'y a rien. Et moi, je reste sceptique, effectivement, avec la circulation du virus que nous avons aujourd'hui. J'aurais préféré que dans le protocole, on reprenne éventuellement celui du mois de mai, et puis tout simplement, on le mettait en place. Il n'y a pas de non... Vraiment, il faut qu'on arrête avec ça. Les enseignants ne veulent pas rester à la maison. Ça ne nous convient pas, l'enseignement à distance. Ça ne convient ni aux enfants, ni aux enseignants. Néanmoins, il faut qu'on puisse accueillir les enfants en toute sécurité et aussi que nous, enseignants, on se sente en sécurité. Et je reviens sur les collègues vulnérables, dits vulnérables. Qu'est-ce qui se passe au mois de septembre ? On a une semaine, ils ne savent pas s'ils doivent reprendre ou s'ils ne reprennent pas.
Autre question qui concerne les quartiers populaires, les familles les plus pauvres, le coût des masques pour les parents qui ont donc des enfants dans le secondaire pour qui c'est obligatoire, donc pour les adultes et les enfants d'une même famille, ce coût s'avère relativement important. Est-ce que c'est des questions dont on vous parle dans la ville où vous enseignez, Catherine Da Silva, en Seine-Saint-Denis ?
Je la pose moi-même en tant que maman. Parce que moi, ça, j'ai compté, ça fait 63 masques pour la première période scolaire, d'ici aux vacances de la Toussaint. C'est pas rien, ça a un coût, les 63 masques. Alors moi, je veux bien que M. Blanquer dise que c'est une fourniture scolaire comme une autre. Ça n'a jamais été le cas. Hein, on n'a jamais eu une pandémie comme ça. Donc ce n'est pas une fourniture scolaire comme une autre. Je ne suis pas certaine qu'il faille laisser à chaque famille le choix d'acheter tel ou tel masque. Et peut-être qu'effectivement, vaudrait mieux que ce soit l'éducation nationale qui fournisse les masques. Parce qu'on va se rendre compte très vite que des enfants vont porter le même masque toute la semaine, qui ne sera pas lavé. Parce qu'on sait dans les quartiers populaires qu'on a des enfants, malheureusement, c'est pas possible des vêtements propres tous les jours, c'est pas possible d'être lavé tous les jours. Donc excusez-moi, mais le masque il sera pas lavé non plus tous les jours. Donc à ce moment-là, est-ce qu'il a une pertinence ?
Robert Cohen, est-ce que ça pourrait être une mesure de santé publique ? Des enseignants le demandent, des masques gratuits pour les élèves, au moins pour les élèves.
Je ne sais pas si les masques doivent être gratuits, mais ils doivent être gratuits pour les plus défavorisés. Parce que les plus défavorisés, il faut savoir qu'ils ont un risque augmenté de contracter de la maladie du fait de la promiscuité des conditions sociales à la maison. Ils ont un risque augmenté de maladie, mais c'est aussi ceux qui bénéficient le plus de l'école.
Oui, exactement.
En présentiel. Et ça, ne pas l'avoir en présentiel pour nous, c'est un combat qui fait que plus on est défavorisé, plus on doit participer à une école présentielle parce que c'est là où se sont créées les différences.
Reste à convaincre toutes les familles. On sait que ça a été une difficulté pendant le confinement. On en a parlé dans le podcast L'école à la maison. Et nous continuerons d'en parler la semaine prochaine dans Être et Savoir puisque nous débattrons encore de la rentrée. Et pour l'instant, nous vous proposons de prolonger la réflexion sur les libertés des enfants d'aller dehors pendant le confinement. Liberté dont on espère qu'ils ont pu profiter pendant les vacances. On va changer d'ambiance avec une chanson qui rejoint une question que nous évoquerons en fin d'émission. Vous verrez.
Bicycle, bicycle, bicycle.
I want to ride my
bicycle, bicycle, bicycle.
I want to ride my bicycle. I want to ride my bike. I want to ride my bicycle. I want to ride it where I like.
You say black,
I say white.
You say bar,
I say bite.
You say shark,
I say him. And George was never my scene, and I don't like.
Say Royce,
you
say God,
give me a choice.
Say Lord,
I say Christ, I don't believe in Peter Pan, Frankenstein or Superman.
All I wanna do is bicycle.
I want to ride my
bicycle, bicycle, bicycle.
I want to ride my bicycle.
Bicycle.
I want
France Culture, Être et Savoir, Louise Touret.
Deuxième partie d'Être et Savoir, donc avec nos deux invités, Thierry Paco, philosophe de l'urbain, qui préside le concours annuel La rue aux enfants, rue pour toutes et tous, une idée sur laquelle nous reviendrons, auteur notamment de La demeure terrestre, publié chez Terre Urbaine en juin dernier. Il a dirigé le collectif La ville récréative, ça c'était en 2015, et également préfacé les traductions françaises des livres de Colin Ward, L'enfant dans la ville chez Hétérotopia, publié en mars, et Francesco Tonucci, La ville des enfants pour une révolution urbaine, publié ça en septembre 2019, l'année dernière. Et avec nous tout de suite, Christelle Ferjou, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeure des écoles, conseillère pédagogique dans les Deux-Sèvres. Vous n'êtes plus en charge d'une classe spécifiquement, mais vous accompagnez des enseignants sur une pratique, celle de la classe dehors. La classe dehors, on en a déjà parlé dans Être et Savoir. Et ce qu'on relève, c'est que de plus en plus de questions d'enseignants arrivent sur le fait d'enseigner davantage à l'extérieur, de sortir davantage avec ses élèves. Alors, pas forcément comme une réponse aux questions sanitaires, on en a parlé dans la première partie, mais plutôt comme une réponse aux besoins des élèves.
Oui, tout à fait. Mais je dirais qu'en fait, avec le confinement, cette prise de conscience du besoin de nature a émergé de façon plus importante. Et aujourd'hui, si les enseignants s'intéressent à cette pratique régulière de classe dehors, c'est bien parce qu'en fait, on sait par des recherches que l'éducation avec et dans la nature est favorable aux apprentissages et permet une meilleure réussite scolaire. Ça, c'est prouvé. Et du coup, c'est vrai qu'avec le retour à l'école et le protocole sanitaire, les petits groupes, ça a facilité des expérimentations par les collègues de pratiques de classe en extérieur.
Et ce qu'on comprend aussi dans le livre que vous venez de publier, Christelle Ferjou, « Emmener les enfants dehors » chez Robert Laffont, c'est que c'est une vieille idée finalement, cette éducation à l'extérieur grâce aux éléments de la nature. C'est une idée qu'on a peut-être un peu oubliée à la fin du XXe siècle.
Oui, tout à fait. De nombreux pédagogues et notamment tous les pédagogues des pédagogies actives, ce qu'on appelle les pédagogies actives, se sont intéressés à la place de la nature dans l'école. On peut penser à Célestin Freinet avec ses classes promenades et l'étude de milieu, où l'importance de sortir pour aller étudier le milieu, pour aller aussi à la rencontre de professionnels et de métiers permettant aux enfants de se confronter en fait à une expérience directe avec le monde réel. On peut penser aussi aux tables nature qui étaient installées dans les et qui sont toujours installées dans les classes Montessori, où on amène cette fois des observations directes en nature à l'intérieur de la classe en créant des tables d'observation qui permettent en fait des allers-retours entre le dedans et le dehors. Donc c'est vrai que ces pédagogies-là nous ont permis d'éprouver que la place de la nature a un rôle important à jouer dans le développement de l'enfant et dans ses apprentissages. Et puis, au fil des années, et peut-être aussi au nom d'une sécurité, peut-être aussi liée à la peur que l'on a du dehors, ces pratiques se sont un peu plus limitées. Et c'est vrai que ces dernières années, on a plutôt développé d'autres façons de faire classe à l'intérieur et on en a un peu oublié l'importance de sortir avec nos élèves.
Parce que si la plus en vogue des pédagogues que vous avez citée, Maria Montessori, est aujourd'hui un peu mise à toutes les sauces, on peut acheter des boîtes de jeux Montessori et puis sa pédagogie est utilisée par à la fois des professeurs des écoles publiques et puis par des écoles qui se réclament de son nom, on oublie aussi un peu cette dimension extérieure. Car il y a cette idée que l'extérieur serait synonyme de danger, une idée qui est propre au monde et à l'éducation contemporaine. Vous la sentez, vous, chez les parents ou chez les professeurs ?
Oui, alors je la sens vraiment dans notre culture française, parce qu'en fait, contrairement à notre pratique en France, depuis très longtemps aussi, on a cité les pédagogies actives, mais on pourrait citer les pays nord-européens qui ont développé l'approche et la pédagogie par la nature depuis les années 50 et qui, dans leur quotidien de vie, ont encore une relation à la nature importante. Nous, c'est vrai, en France, on a perdu un petit peu cette relation à la nature et je dirais qu'aujourd'hui cette pratique du dehors, on l'a encore sur le temps des vacances estivales, mais dès qu'il pleut, dès qu'il fait un peu froid, on évite de sortir, même à l'école. Quand il pleut, bien souvent les enfants restent à l'intérieur parce que tout simplement, ils ne sont pas équipés. Et effectivement, pour être bien dehors par tous les temps, il faut simplement s'équiper. Comme le dit un proverbe des pays nordiques, il n'y a pas de mauvais temps, il n'y a que des mauvais vêtements. Donc à ça s'associe aussi une peur de la nature. Hein. François Terrasson en parlait déjà dans les années 70. Cette peur de la nature, elle est toujours présente. Parce que plus on s'éloigne de la nature, moins on la connaît et donc moins de connaissances fait peur. Mais finalement, on se rend compte aujourd'hui, par les recherches, que rester à l'intérieur, entre quatre murs, c'est aussi une certaine source de danger. Alors, les chercheurs parlent aujourd'hui d'enfants d'intérieur, on parle même d'enfants hors sol. Et c'est vrai que l'enfant aujourd'hui passe beaucoup plus de temps à l'intérieur entre quatre murs qu'à l'extérieur. Et ça crée notamment une sédentarité, un surpoids, mais également une baisse de la vue. Hein, parce qu'on sait que on a besoin pour développer notre vision de lumière naturelle. Et puis, à l'intérieur, un autre danger potentiel, quelque part, dont on a peu conscience, c'est que l'espace est très contraint et finalement, laisser un enfant à l'intérieur va moins le mobiliser corporellement. C'est-à-dire que souvent, quand on est à l'intérieur, je pense bien sûr à la classe, mais aussi à la maison, on va plutôt inciter l'enfant à être assis que debout et à être en mouvement.
Juste un point avant de passer la parole à Thierry Paco, vous parlez de nature, mais dans le livre, ce qu'on comprend bien, c'est que cette nature, ça peut être n'importe quoi, un terrain qui se situe près d'une école, près de l'habitation, qui n'est pas forcément riche en biodiversité, mais où tout simplement il y a de la terre, quelques herbes.
Oui, le contact, en fait, ce qui est primordial, c'est de permettre à l'enfant de toucher la terre, d'être au contact avec l'eau, pour susciter vraiment l'éveil de l'ensemble de ses cinq sens. Et donc, effectivement, je ne parle pas du tout d'une nature extraordinaire, mais plutôt de tous les petits coins de nature qui peuvent être à proximité de la maison ou de l'école. En tout cas, ce qui est important, c'est vraiment de laisser la possibilité à l'enfant de pouvoir être en contact direct avec, comme vous l'avez dit, la terre, l'eau, les éléments, des bâtons, des cailloux. Ça, c'est vraiment essentiel. Et donc, pour ça, on n'a pas besoin d'un terrain extraordinaire. Mais même un terrain vague, et c'est vrai que dans les années 50, 60, 70, les enfants des villes comme des campagnes avaient accès à des terrains ou à des champs, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui.
Mais oui, on pense au petit Nicolas qui joue dans un terrain vague avec ses camarades, Alceste, Agnan. Enfin, je ne sais pas si Agnan il a vraiment le droit de venir. Thierry Paco, est-ce que la ville qui est le milieu de la majorité des enfants, et même quand on vit à la campagne, on a souvent comme premier abord de l'extérieur des rues où passent des voitures, il faut la repenser pour les enfants.
Oui, tout à fait. Mais avant, je voudrais compléter
avec plaisir.
Ce qui vient d'être dit, parce que c'est tout à fait juste. Je crois que, pour ça, moi, je prêche pour l'école élémentale et non pas l'école élémentaire, c'est-à-dire celle des quatre éléments. Et c'est vrai que l'enfant, dans les terrains de jeu qui sont inventés en Allemagne au début du 19e siècle, a à sa disposition de l'eau, une petite mare, dans un terrain vague ou un jardin ou un parc, évidemment des morceaux de bois, des bûches, des stères, et puis il peut allumer un feu, il n'est pas idiot, il ne va pas se brûler. Et puis, il y a l'air, évidemment. Et donc, les quatre éléments que Empédocle a analysés dans la pensée grecque sont contradictoires en eux-mêmes. C'est-à-dire que l'eau, à la fois, vous désaltère, mais peut vous inonder. Le feu vous réchauffe et peut, évidemment, incendier votre maison, etc. Et donc, par l'approche comme ça sensible des quatre éléments, l'enfant, tout enfant, découvre finalement la dialectique du monde, découvre la contradiction entre ce qui se fait et son contraire. Et ça, c'est quelque chose qui n'a pas de prix, et ça a été très très bien dit en citant Maria Montessori ou Célestin Freinet, mais j'ajouterais bien sûr Patrick Guedes et puis Mabel Barker, parce que c'est eux qui ont fondé vraiment la réflexion sur pourquoi aller étudier à l'extérieur, et ça m'a permis de définir l'enfant comme étant un chercheur d'or. Je pense que l'enfant est un chercheur d'or, H-O-R-S. D'abord, et ça on le sait par Piaget et d'autres, il faut qu'il se sorte de son corps, puis il faut qu'il sorte de sa maison, et puis il faut qu'il sorte de l'école, et puis il faut qu'il sorte de la ville. Alors, vous avez raison, la majorité des enfants aujourd'hui sont des urbains, dans des lotissements pavillonnaires, bien souvent sans grande grâce esthétique, dans des grands ensembles, on connaît l'aspect caserne de ceci, et puis dans les villes infréquentables parce que trop de voitures, trop de monde, trop de bruit, trop de pollution, etc. Donc, il y a à repenser tous les territoires pour que les enfants puissent s'y épanouir. Et pour ça, la meilleure solution, c'est de demander leur avis.
Dans certaines villes, hein, les enfants sont consultés, bon, c'est pas encore majoritaire. Mais cela existe. Thierry Pacaud, pensez-vous que cette période du confinement qui nous a vu pour certains rester à la maison, mais ça a été le cas pour tous les enfants, le fait d'être confiné à domicile en ce printemps, a renforcé une certaine idée de la dangerosité de l'extérieur, cette même idée qui prive les enfants de la liberté d'aller venir en ville. Alors, cette dangerosité, elle n'est pas seulement imaginaire, hein, les voitures, bon, puis bon, cette idée de faire du feu qui a dû choquer peut-être certains parents, mais en tout cas, cette idée de liberté de l'enfance qui est encore plus abîmée dans cette période inquiète.
Oui, mais cette crainte de tout ce qui est danger est une crainte parentale. Ce n'est pas celle des enfants. Et les enfants, et on a des foultitudes d'études là-dessus, surtout dans les années 30, 40, 50, sur les terrains d'aventure en particulier, les Robinsons, etc. Non, il y avait très peu d'accidents. Très, très peu d'accidents. Il faut faire confiance aux enfants. Alors ça, c'est quelque chose que l'adulte a du mal à accepter. Et donc, l'adulte invente l'école pour les enfants avec un programme d'adulte, avec un certain nombre de contraintes, horaires. Bon, Guedes, avec sa femme, déteste l'école. Nous sommes à la fin du 19e siècle en Écosse, et du coup, ils font une école à domicile avec leurs trois enfants, plus trois, quatre autres enfants. Et dans la journée, ben, les enfants vont, alors c'était un peu différent évidemment comme époque, vont dans les champs, vont dans les bois, vont dans les forêts, reviennent avec plein de trésors, et quand ils reviennent à la maison, ben, ils vont essayer de comprendre ces trésors à partir des livres qui sont à leur disposition, et donc les choses s'enchaînent comme ça. Et ça, c'est le grand pédagogue américain John Dewey, qui explique très bien que un enfant apprend par lui-même en éprouvant. S'il n'éprouve pas, alors il ne peut pas apprendre. Et donc le confinement a été une punition terrible pour les enfants, parce que ne pas pouvoir être dehors les empêchait de saisir justement ce lien qu'ils doivent établir en permanence, que nous devons, nous aussi, adultes, établir en permanence avec le cosmos pour établir notre demeure terrestre, précisément. Et donc, le petit enfant qui était confiné dans des appartements bien souvent exigus, où tout le monde était là et l'empêchait de faire sa cabane sous la table de la salle à manger avec trois coussins et je ne sais pas quoi d'autre, avec son inventivité à lui, inventant son monde. Parce que si l'enfant est un chercheur d'or, il est aussi un faiseur de monde. C'est-à-dire que c'est ça qui est magnifique, hein. Et l'expression populaire de dire qu'un enfant vient au monde, il vient au monde pour ajouter son monde au monde des autres. Et donc, pour qu'il soit dans son monde, il faut qu'il puisse s'absenter du monde des autres pour pouvoir justement, tout d'un coup, rêver le sien. Alors là, on est dans une autre temporalité. Il faut laisser l'enfant aller à son rythme. Et aucun enfant n'est pareil. C'est pour ça que l'école que Célestin Freinet a si bien dénoncée et celle des horaires, vous voyez, de l'emploi du temps. Hein, on va faire français de telle heure à telle heure, dessin de telle heure. Non, non, non. Il ne doit y avoir qu'une seule discipline, qui est l'indiscipline.
Alors là, on est dans une certaine forme d'utopie scolaire. On ne sait pas si elle est aujourd'hui très partagée. Christelle Fer, je voulais intervenir.
Pour compléter ce que vient de dire l'intervenant, effectivement, je suis tout à fait du même avis et on pourrait même parler de sécurité active, c'est-à-dire que l'enfant par lui-même se pose en permanence des défis, si on lui en laisse le temps et surtout si on lui laisse du temps libre pour cela. Et dans ce temps libre, les défis que va se donner par lui-même l'enfant, ils sont toujours ajustés là où il en est, à son développement. Donc en fait, il ne se mettra pas par lui-même en danger. Au contraire, il va apprendre à mieux se connaître et si on lui permet de réaliser ses défis, petit à petit, il va mesurer les moments de sécurité ou d'insécurité et il va se créer ses propres règles pour rester toujours en sécurité.
Alors, il n'y a pas que les parents à convaincre, et déjà, ce serait pas mal de travail, de mon point de vue. Christelle Ferjou, il y a aussi ceux qui conçoivent les espaces des écoles, les classes, les cours d'école, dont vous dites qu'elles sont pensées davantage pour les adultes que pour l'usage des enfants.
Oui, tout à fait. Aujourd'hui, il est nécessaire, je crois, de repenser les espaces d'apprentissage, ceux à l'intérieur de l'école, mais aussi les cours de récréation. Les cours de récréation dans notre école française n'ont pas été pensés comme de véritables espaces d'apprentissage. Aujourd'hui, que l'on vive en ville, en plein cœur de ville ou à la campagne, nos cours d'école se ressemblent toutes. Elles sont goudronnées avec une structure et souvent une matière artificielle pour limiter le danger physique. Et finalement, au cours d'une journée d'école, l'enfant peut ne pas toucher terre et rester sur des matières artificielles. Donc, je sais qu'aujourd'hui, certains élus, certaines collectivités, notamment les nouveaux élus écologistes souhaitent, dans le cadre de la transition écologique, repenser la place de la nature aussi dans l'école. Et il devient urgent d'ensauvager nos cours de récréation, de débitumer, de dégoudronner nos cours pour accueillir une nouvelle nature qui va permettre à l'enfant d'apprendre différemment.
Thierry Paco, faut-il ensauvager la ville ou faut-il faire lire des traités de pédagogie aux urbanistes ?
Se rappeler, parce que c'est ça qui est terrible en même temps, c'est que on sait ce qu'il faudrait faire et on ne le fait pas. Et ça, c'est vraiment parfois décourageant. Moi, j'ai découvert comme ça qu'à la fin du 19e siècle, il y avait des classes scolaires qui militaient pour adopter des arbres. Et que c'était quelque chose qui était lié à la journée de l'arbre qui a été inventée aux États-Unis en 1872, qui arrive en France à ce moment-là. Et là, tout d'un coup, des écoles entières réclament aux élus la plantation de 5 000, 10 000, 20 000 arbres. Et tout d'un coup, chaque enfant va étudier l'arbre, va le dessiner, va voir à quoi ça sert, etc. Et donc, là, tout d'un coup, il y a une sorte d'intimité qui s'établit entre l'enfant et la nature, que ce soit en ville ou à la campagne. Eh bien, ça, il ne l'oubliera pas par la suite, évidemment. C'est quelque chose qui est excessivement important. Et alors, la cour de récréation, on le sait très bien, c'est un grand rectangle. Ça devient un terrain de foot pour les plus grands. Et ça exclut systématiquement les enfants plus petits et toutes les filles. Donc là, il y a aussi une approche genrée de l'école qu'il faut avoir.
Sujet dont nous avons déjà parlé et sur lequel, évidemment, nous reviendrons. De même que les aires de jeu, on en parlera prochainement avec vous. J'avais encore deux questions qui m'ont été inspirées par la lecture de la presse cet été. Un article du magazine Society, repris ce dimanche par Le Parisien Aujourd'hui en France, expliquait que les chaises pliables d'une grande enseigne de sport, bien connue des Français, sont très populaires aujourd'hui. Pourquoi ? Car il n'y a plus de bancs et que cela permet de profiter de l'espace de la ville à tout un chacun, particulièrement les jeunes, les adolescents. Qu'est-ce que ça vous inspire, Thierry Paco ?
Moi, j'aime bien les bancs. Parce que, alors les bancs, évidemment, comme on en trouve de moins en moins, c'est-à-dire des bancs qui ne sont pas anti-SDF, hein, qui n'ont pas d'aspirité pour décourager le pauvre malheureux à s'allonger dessus, les bancs, Évidemment, il faut les réinventer dans le sens où il faut les mettre face à face pour qu'il y ait justement un petit îlot comme ça de convivialité, d'urbanité. Mais le banc, pour moi, dans la ville, c'est une sorte d'escale. Pour une personne fatiguée, une vieille personne, elle s'arrête là. Et donc le banc, on s'arrête là, on y fait le point, et ça permet de faire le cabotage dans la ville. Alors c'est excessivement important, le banc. Ça apparaît du reste dès le 15e siècle, hein, dans les grandes villes italiennes. Et puis ça mettra pas mal de temps à se répandre, parce que le banc est aussi l'élément essentiel pour la rêverie solitaire. Nous connaissons tous le banc de Jean-Jacques Rousseau. Eh bien, il y en a d'autres, évidemment, qui font. Donc il nous faut des bancs. Il nous faut multiplier les bancs dans la ville. Et pour ça, il faut rompre aussi avec une sorte de standardisation du mobilier urbain et privilégier tout ce qui est amène. Hein, c'est un très beau mot que l'aménité. Ça veut dire rendre aimable. Et quand on rend aimable quelque chose, eh bien, on le rend hospitalier.
Hospitalier pour tous les âges de la vie, donc y compris cette jeunesse dont je parlais.
Plus la ville est conçue pour les enfants, mieux elle sera pour tout le monde.
Et une autre question concernant les nouveaux usages de la ville. Le vélo, aujourd'hui, n'a jamais été autant utilisé par les urbains. On le voit particulièrement dans la capitale, mais dans d'autres grandes villes. Pourquoi ? Parce qu'avec le Covid, on a peur de prendre les transports en commun. J'ai essayé aujourd'hui, ce n'est pas très agréable. Il y a beaucoup de monde, même avec un masque. Ce vélo, est-ce qu'on peut envisager de répandre cette pratique jusqu'aux enfants, aux jeunes adolescents qui, pour l'instant, seraient bien aventureux de prendre leur bicyclette sur les pistes ou les routes des grandes villes?
Vous avez absolument raison. Là, il faut inventer ce que les Bruxellois ont déjà mis en place, un code de la rue, c'est-à-dire montrer que la rue, on la partage aussi générationnellement. Et moi qui suis un vieux cycliste, et c'est vrai que depuis très peu de temps, je m'en réjouis, je vois des enfants, alors suivre leurs parents avec des vélos plus petits, à leur taille évidemment, et ça c'est excessivement plaisant. Alors j'en ai vu à Grenoble, j'en ai vu à Rennes, j'en ai vu dans effectivement ces villes un peu plus ouvertes à la question des enfants, mais il faudrait que ça puisse se généraliser partout. Les points noirs vont être la banlieue, hein, qui déjà aujourd'hui en France, dans la région parisienne, est très hostile aux cyclistes. Alors elle le sera encore plus pour les enfants qui font du vélo. C'est un moyen de transport privilégié, c'est un moyen de découverte de la ville, c'est un moyen de découverte de leur propre corps, et ça a été très bien dit tout à l'heure, c'est aussi un moyen d'éprouver nos cinq sens, avec le sixième sens qui est précisément le mouvement.
Et on se quitte sur cette chanson de Queen, I Want to Ride My Bicycle. Je crois pas que ce soit le titre exact. Toutes les références citées dans l'émission seront de toute façon indiquées à la page d'Être et Savoir grâce à notre collaboratrice Avril Ventura. Être et Savoir est réalisé par Philippe Baudouin et c'est Jean-Guilain Meige qui en a assuré la prise de son ce soir. Un grand merci à tous les trois. L'émission sera très rapidement disponible à l'écoute différée sur le site de France Culture. Je vous donne rendez-vous lundi prochain à 21h. Nous parlerons de nouveau de la rentrée, un peu conflictuelle. Demain, mardi, à 21h, vous retrouvez Aurélie Luneau pour De Cause à Effet. Bonne soirée à l'écoute de France Culture.